Je vais dans le congolais avec Alain.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Nord Kivu, polémique autour de l'application de la loi Obama qui imposera dès janvier 2012 un embargo sur les minerais provenant des zones de conflit dans l'est de la RDC. Le gouvernement provincial, la société civile et les opérateurs miniers s'inquiètent du fait que certaines sociétés d'électronique internationales veulent appliquer cette loi dès le mois d'avril 2011, tandis que certaines ONG nationales du Nord Kivu soutiennent sa mise en application immédiate. Comment analyser cette divergence de vues? Nos invités dans cette émission sont Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Il est contre la mise en application immédiate de la loi Obama. Monsieur le gouverneur Paluku, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Deli Mawazo, coordonnateur de l'ONG Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme, Credo, une des ONG qui soutiennent la mise en application immédiate de la loi Obama. Monsieur Mawazo, bonsoir.
Bonsoir.
Et le troisième invité, c'est Al Kitenge, analyste économique et stratège. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes très nombreux à réagir comme d'habitude. Guillaume de Maagui en province orientale, je salue la loi Obama, mais comment s'assurer que cette décision sera respectée par certaines multinationales? C'est une démarche qui n'apportera pas une solution durable. Béhé Hangi de Walikale au Nord Kivu, le danger de la loi Obama, c'est que les minerais seront exploités frauduleusement en faveur des pays voisins, et cela est plus dangereux que la façon dont ils sont exploités aujourd'hui. Cette loi devrait plutôt concerner les pays de l'Afrique centrale pour qu'elle soit plus efficace. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081-890-66-68 ou nous écrire par SMS au 081-051-57-78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
La loi Obama sur les minerais de sang crée de l'inquiétude au Nord Kivu. Ce texte, qui entre en vigueur en principe le 1er janvier 2012, imposera un embargo sur l'or, le wolframite, la cassiterite et le coltan si ceux-ci proviennent des zones de conflit à l'est de la RDC. Mais déjà certaines sociétés d'électronique internationales se conviennent de ne plus acheter des minerais en lien avec les conflits armés dès le vendredi 1er avril dernier. Cette prise de position inquiète la société civile, le gouvernement provincial ainsi que les opérateurs miniers au Nord Kivu. Ils se disent préoccupés et demandent un moratoire de 6 à 12 mois au gouvernement américain afin que la RDC se conforme aux mesures de contrôle qu'exige cette loi. Pendant ce temps, certaines ONG nationales basées au Nord Kivu soutiennent la mise en application immédiate de cette loi. Le point avec vous, Sifa Maguru.
Dans une lettre adressée au président des États-Unis, la coordination de la société civile du Nord Kivu sollicite un moratoire de 6 à 12 mois sur les effets de la loi 1502. Il évoque le fait que l'arrêt d'achat de ces minerais par des consommateurs finaux aux États-Unis bloquerait tous les circuits en amont. C'est d'autant plus qu'une grande partie des exploitants artisanaux sont des gens de terreur et que cette exploitation est aussi une source de revenus pour des milliers de familles déjà vulnérables. Jason Lumeno, président de la société civile du Nord Kivu.
Nous avons considéré que si cette loi entrait en vigueur le 1er avril, donc la population congolaise ici n'allait pas beaucoup plus se plonger dans la misère, mais aussi ça ne va pas empêcher la crise. Parce qu'on voit toujours découler ces minéraux clandestinement au profit de certains pays qui pourront étiqueter nos minéraux et qui pourront donner une identité à nos minéraux sans que ces minéraux ne puissent porter l'identité de la République démocratique du Congo.
Par contre, une ONG locale des droits de l'homme, Credo, soutient l'application immédiate de cette loi. Selon elle, les opérateurs économiques et le gouvernement doivent rassurer que cette exploitation ne contribuerait pas à financer les groupes armés. Notez que les opérateurs économiques du Nord Kivu indiquent avoir une marchandise estimée à plus de 30 millions de dollars américains non encore écoulée, conséquence de la suspension des activités minières en 2010, ce qui représente une manque à gagner considérable pour eux. Goma, Sifa Maguru, Radio 4.
Merci Sifa Maguru. La loi américaine sur le contrôle des minerais provenant de l'Est de la RDC n'est, je cite, ni un embargo ni une sanction. C'est ce que déclare un responsable américain qui vient de séjourner jusqu'à ce week-end en RDC. Victoria Holt, la sous-secrétaire d'État américaine chargée du bureau des affaires des organisations internationales, estime que cette loi vise à promouvoir promouvoir la paix à l'est de la RDC. Et cela du fait que certaines matières proviennent des zones de conflit. La semaine dernière, plusieurs acteurs du Nord Kivu ont demandé au gouvernement américain un moratoire sur cette loi qui devrait entrer en vigueur en début janvier prochain. Pour Mme Victoria Host, c'est important que cette loi entre en application. Et le dit au micro de Georges Kamdoba.
Je pense que cette situation est en quelque sorte. Je pense que la décision ne me revient pas personnellement. Et ce qui est nécessaire, c'est d'assurer une plus grande traçabilité des minéraux. Je pense que toute multinationale, toute compagnie étrangère doit se conformer à certains principes, c'est-à-dire la transparence et la légalité de leurs opérations sur place. Cette loi a mis tout son sens sur la nécessité de transparence et de traçabilité des minéraux. Elle ne devrait pas être perçue comme une sanction quelle qu'elle soit, c'est plus comme la volonté de vouloir mettre fin à ce genre de pratique et à pouvoir assurer que le trafic en fait des minéraux se fasse de la manière la plus transparente qu'elle soit.
Delima Oazo, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG Centre de Recherche sur l'Environnement, la Démocratie et les Droits de l'Homme, CRIDO. Vous soutenez la mise en application immédiate de la loi Obama. Pourquoi?
Ah, merci de la question. Je pense que le CRIDO et les autres organisations qui sont membres du GATT, il y a un réseau qui soutient la traçabilité et la mise en application immédiate du Dodd-Frank Act. Et c'est pour quelques raisons identifiées après. La première est que si vous regardez bien jusqu'aujourd'hui, les réseaux aurifères, donc les sites miniers qui comprennent, desquels on extrait de l'or, sont à 95% contrôlés par les groupes armés. Et du côté des FRDC, il y a beaucoup de sites où les FRDC, donc l'armée congolaise, n'a pas pu se solidariser de l'intervention dans la chaîne d'approvisionnement. Et l'autre élément que nous notons est que toutes les fois que l'on parle minerais, toutes les fois qu'on parle trafic illicite de minerais, ça veut dire de l'argent qui finance la mort. Et que donc, si on continue à laisser les forces des groupes armés intervenir dans la chaîne d'approvisionnement, ce sont des meurtres, ce sont des pillages, ce sont des viols qu'on continue à financer. Et que donc, pour le CRIDO et les autres organisations qui soutiennent l'application immédiate, le Dodd-Frank Act devrait connaître une application immédiate parce qu'au finish, ce n'est pas un embargo comme on le dit, comme le prétendent certaines personnes, mais c'est plutôt une responsabilité, une redevabilité et une traçabilité dans l'exploitation et la commercialisation. C'est-à-dire, du site d'exploitation jusqu'au consommateur final, on doit s'assurer qu'on n'a pas financé la mort.
Alors, mais en principe, cette loi devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2012. Pourquoi ne pas attendre cette date-là et vous voulez que ce soit maintenant?
Nous voulons que ce soit maintenant parce que les données dont nous disposons indiquent que jusqu'aujourd'hui, les forces et groupes armés contrôlent une bonne partie de la filière orifère et la partie sanifère n'est pas aussi exempte du contrôle des forces et groupes armés. Donc tout l'argent, l'essentiel de l'argent qu'on est en train de percevoir ne va pas tout droit vers le bien-être des Congolais, mais c'est pour financer à partir la mort et les forces modernes d'esclavage dans les sites miniers.
Donc pour vous, tous les efforts de démilitarisation des zones minières ont échoué?
Non, il y a des efforts qui sont en train de réussir. Je parle par exemple du site de Bissier, d'où nos enquêteurs viennent de rentrer. Les militaires sont en train de se retirer du site de Bissi et dans les gros sites miniers qui produisent la cassiterite. On loue l'effort du gouvernement, mais du côté de la chaîne d'approvisionnement, si vous regardez la chaîne d'approvisionnement et le centre de négoce de l'Ingala qui devait recevoir les minéraux à provenance de Bissi, le centre n'est pas encore construit et le gouvernement provincial essaie de dire que le matériel fait défaut et il y a les ordinateurs qui font défaut. Or, nous savons que le gouvernement provincial, le gouvernement national et tous les intervenants miniers qui relèvent de l'État, lorsqu'ils agissent dans la zone, dans le domaine des minéraux, ils ne le font pas en tant qu'opérateurs sociaux. Ils le font en tant que des organismes gouvernementaux qui perçoivent de l'argent sur le trafic, sur l'exploitation et le trafic. Donc, ils ne devraient pas dire qu'ils ont besoin d'argent. Or, nous savons que le circuit, il y a un flux important de dollars américains dans l'extraction et la commercialisation des produits miniers. Sans parler de l'exportation, donc là, la chaîne est assez longue.
Il y a un auditeur, maître Juvenal Mounoubo Moubi de Goma en Nord Kivu, qui dit j'encourage ceux qui font le plaidoyer pour obtenir un moratoire, car cette situation risque d'avoir des répercussions néfastes sur le vécu quotidien des populations locales. En revanche, la loi Obama a le mérite d'interpeller notre gouvernement à plus de responsabilités dans ce secteur laissé longtemps à l'arbitraire. Avez-vous réfléchi profondément de l'Imawazo sur les conséquences que pourrait avoir l'application immédiate de cette loi par rapport au social des populations à l'Est?
Ah oui, le Credo travaille aussi dans le domaine minier depuis 2007. Et nous savons bien que les autres évoquent doit-on mourir, l'aspect doit-on mourir ou doit-on mourir de faim ou de balles. C'est ça, en fait, la question que les gens se posent. Mais nous aussi, on se pose la question. Après être rassasié, doit-on mourir de balles? Et la question, c'est que on peut se rassasier doucement et sans mourir de balles. C'est ça le point de vue du Credo. Et que donc, si les gens veulent évoquer de manière assez astucieuse la possibilité de mourir de faim, ils ne se posent pas la question de savoir quelle est la part de la de contribution de minerais dans l'hécatombe qui s'écoule et qui vous aujourd'hui.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, on peut mourir, on peut se rassasier lentement sans mourir des balles, ils empruntent ces mots de l'Imawazo. Qu'est-ce qui vous inquiète dans l'application immédiate de la loi Obama?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par dire ma compassion à la MONUSCO à la suite de cet accident qui vient d'avoir lieu tout à l'heure à Kinshasa. Pour revenir à la question, moi je pense que il faut bien lire cette loi. Moi, j'ai eu le temps de lire la loi qui est très, très, très volumineuse, là, presque 2500 pages. C'est une loi de la réforme des finances américaines. Et dans cette loi, il y a seulement une disposition qui concerne la RDC, où effectivement, il est clairement dit que toutes les entreprises qui achètent les minéraux en provenance de la RDC doivent se rassurer effectivement que ces minéraux n'ont pas servi à des groupes armés. Et je crois que lorsque vous partez du processus de l'élaboration d'une loi qui va de son élaboration en passant par son vote et sa promulgation, eh bien il y a un temps. Moi je sais bien que lorsque cette loi a été initiée, c'est à l'époque où par exemple en 2008, toute la partie est de la RDC était sous contrôle des groupes armés, il y en avait 23 au nord et au sud de vous, et bien il y a eu des évolutions à partir de cette année-là. Et malheureusement, la loi vient d'être promulguée le 23 juillet 2010, lorsque des évolutions ont déjà été constatées. Lorsque monsieur Delimawa de cela de nous, je pense, évoque l'idée selon laquelle toute la partie aurifère et sanifère est contrôlée à 90% par les groupes armés, moi je dois lui dire que cela n'est pas vrai. Alors, si on a bien lu la loi, il a été clairement dit que cette loi doit être mise en application le 1er janvier 2012. Notre inquiétude est celle-ci. Comment ceux qui n'ont pas initié la loi, ceux qui n'ont pas voté, ceux qui n'ont pas promulgué, ils veulent que la loi soit appliquée avant la période au cours de laquelle les initiateurs ont voulu qu'elle soit appliquée. Et si vous voulez d'ailleurs cette commission salée de la loi, il est clairement dit que tous les 180 jours, les départements d'État ainsi que l'USAID doivent établir les liens entre les violations des groupes armés et l'exploitation minière. Et une autre disposition dit d'ailleurs qu'une cartographie devra être faite tous les 180 jours pour qu'on l'envoie ici réellement à chaque partie minière et bien les contrôles est fait par le gouvernement congolais ou par les groupes armés. Or aujourd'hui, tout le monde sait que à partir des années 2009-2010, nous avons intégré une bonne vingtaine de groupes armés dans les forces armées de la République. On a évacué tous les FDLR qui gisaient dans la partie de Massissi, dans la partie sud de Lubero et une bonne partie de Walikale. Et malheureusement, la loi vient s'appliquer lorsque on a évacué les problèmes pour lesquels la loi a été votée. Voilà notre inquiétude là où elle est située.
Mais, monsieur le gouverneur, à vous comprendre, contrairement à ce que Denis Mawazo dit, la démilitarisation des zones minières a réussi d'après vous?
Oui, là, je l'ai dit souvent, le processus d'appel ne se gère pas comme un feu de brousse. Et on ne peut pas dire comme par une baguette magique que nous avons réussi à 100%. Mais au moins, moi je viens de Walikale et j'ai séjourné pendant 4 jours, ce qui était impossible à l'époque. J'ai été en Jingala et j'ai vu les centres de négoce. Et tous les minerais devront passer, il est presque centré. Il y a un autre centre qui est construit à Itebero, il y a un autre qui est construit à Rubaya, qui est un territoire de Massissi. Tout cela constitue des préalables pour la certification et l'étiquetage des minerais. Et je pense que on ne doit pas se cacher, se voiler la face pour dire aujourd'hui qu'il y a des avancées par rapport à ce que nous avions constaté en 2008 lorsque la loi était sous étude au niveau du Congrès américain. La loi a été votée juste quand il y avait déjà des avancées. Donc moi je soutiens quand même que des évolutions positives ont été observées et que nous comprenons la pitié qu'ont les Américains vis-à-vis de nous les Congolais. Ils veulent que nos minéraux ne soient pas les minéraux de sang, c'est que nous allions. Cette même pitié nous touche tout droit au cœur parce que nous avec nous, mais nous, pour lesquels ils ont cette pitié, nous leur disons effectivement que, avec la pitié qu'ils ont envers nous, nous sommes en train de nous efforcer pour que les minéraux ne servent pas à financer la guerre, et c'est cela la volonté du président de la République. Lorsque le 9 septembre 2010, il a suspendu l'exploitation des minéraux sur toute la partie est de la RDC pour vouloir contrôler effectivement les circuits qui va de la production jusqu'à l'exploitation. Nous avons été à Kinshasa du 25 février au 1er mars, nous avons signé des actes d'engagement, tous les acteurs confondus, c'est-à-dire les acteurs non étatiques, les acteurs étatiques, et ensemble, nous nous sommes engagés à devoir veiller sur la certification des minéraux pour que désormais nos minéraux sortent des puits, contrôlés et certifiés, qu'ils ne pourront plus financer un seul instant, une guerre ou un groupe armé dans l'ensemble de l'Est de la RDC.
Merci, monsieur le gouverneur. On vous garde tout au long de cette émission. Alki Tengue, vous êtes analyste économique et stratège. Quelle est votre analyse à ce niveau?
Mon analyse est tout à fait simple. Cette loi est une loi américaine. Elle entrera en vigueur en 2012, en janvier. Ce ne sont pas les élucubrations sur celles du gouverneur ou des agents de la société civile qui vont faire accélérer ou ralentir l'entrée en vigueur. Mais aujourd'hui, il y a quand même un signal qu'il faut lire en bonne et due forme. C'est le signal des sociétés privées américaines qui veulent, elles, déjà aujourd'hui s'amender. En fait, elles s'amendent parce que dans le passé récent, elles étaient mouillées dans des opérations qui ont alimenté la guerre. Et ça, c'est des choses faciles à mettre en place, ni l'un ni l'autre ne l'ont contredit. En fait, il faut quand même savoir que pendant que ces Américains, pendant 2 ans, préparaient cette loi, le Congo savait bien que nous avons un problème réel. C'est d'ailleurs pour ça que, de manière conservatoire, le chef de l'État avait pris la disposition d'interrompre la commercialisation ou l'exploitation des minéraux par voie artisanale. Mais en fait, ça pose toute la question de l'économie informelle. Qui sont les acteurs? Depuis, des endroits où se creusent
les carrières,
comme on les appelle, juste à la commercialisation. Personne ne les connaît. Ce ne sont pas des opérateurs de haut niveau, des opérateurs connus. Quel est ce pays qui a exploité artisanalement son diamant et a créé l'illettrisme le plus avancé dans les deux Kassai? Des accidents mortels de très haut niveau et le sida dans une propension viralisante très élevée. Mais qui répercute exactement la même chose au Katanga avec le cuivre et aujourd'hui dans la partie est avec l'or et l'état et le coltan. À un moment donné, on doit savoir qu'on ne peut pas développer un pays avec l'artisanat. Il faut se doter d'une industrialisation intelligente qui prend en charge le développement intégré. Regardez aujourd'hui, rentrer dans ces carrières. Les gens sont dans le même état de pauvreté, mais en plus, les gens accumulent des maladies professionnelles graves. Et lorsqu'on parle d'un accident, c'est toujours une trentaine, une vingtaine de personnes qui sont mortes dans les carrières. À un moment donné ou à un autre, il faut savoir pour qui on plaide. Aujourd'hui, les gens sont agités. Il s'agit pour les commerçants et non pour les artisans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec froid. La loi américaine, elle entrera en pratique quand les États-Unis auront décidé de la faire entrer en pratique. Mais aujourd'hui, Obama n'a aucun pouvoir, le gouvernement congolais n'a aucun pouvoir sur les entreprises privées qui décident de ne plus s'approvisionner chez nous pour deux bonnes raisons. La première, c'est l'image de marque. La deuxième, c'est une raison d'éthique. En fait, ces entreprises savent que tôt ou tard, elles seront rattrapées par les forfaits qu'elles ont commis dans les années antérieures. Et aujourd'hui, c'est une espèce de fuite en avant. Je me demande pourquoi nous tenons ce débat. Ça ne changera absolument rien à ce qui va se passer réellement sur le terrain.
Alors, la loi doit être appliquée en janvier 2012, mais les sociétés américaines qui veulent déjà l'appliquer maintenant, comment on pourrait exploiter cette, entre guillemets, précipitation?
Mais je l'ai expliqué tout à l'heure, elles se précipitent simplement pour montrer leur bonne foi, pour donner des signes avant-coureurs au gouvernement américain qui va devoir les traquer de par la loi, parce que vous pouvez être sûr qu'il y aura une rétrospection par rapport aux agissements des uns et des autres. Vous pouvez être sûr que le gouvernement américain et les institutions américaines n'ont pas pris cette loi par hasard. Et cela est documenté, et d'ailleurs nous avons énormément de preuves ici. C'est d'ailleurs pour ça que le chef de l'État, à un moment donné, a suspendu l'exploitation artisanale des minerais dans la partie est de notre pays. Parce qu'il y a un lien réel entre la guerre ou les guerres et les catastrophes qui sont en train d'être menées et bien entendu l'exploitation artisanale et la commercialisation des minerais dans la partie est de notre pays. Et ceci étant, les États-Unis ne veulent pas se retrouver demain devant une situation qui est scandaleuse et qui les met en position piteuse. Et pour ça, les États-Unis, c'est deux composantes, c'est la partie institutionnelle, mais également les opérateurs économiques. Et aujourd'hui, la situation qui fait peur, c'est que les opérateurs économiques disent « Nous, on veut déjà mettre cela en pratique ». Mais ça ne changera pas. Obama n'a aucun pouvoir sur les opérateurs économiques, si les opérateurs économiques prennent leur choix. Aujourd'hui, vouloir faire du lobbying sur le plan de la politique ne donnera pas de résultat, parce que ce n'est pas une décision des politiques. Les politiques ont déjà décidé de faire entrer la loi en 2012, au mois de janvier. Mais les opérateurs privés, qui ont une large liberté, eux disent « Désormais, on ne va plus acheter. C'est leur liberté, ils vont devoir faire ce qu'ils veulent. »
Alors, est-ce que cette position de ces entreprises américaines à Kitenge pourrait-elle être perçue comme une forme de pression sur le gouvernement congolais, par exemple, pour accélérer le processus de traçabilité de l'Amérique?
Je crois simplement qu'on ne doit pas regarder ça au travers de ce prisme. On doit pouvoir regarder ça au travers du prisme de la responsabilité. Quand il y a des gens qui meurent de suite de la guerre, ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Américains. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les Américains s'émeuvent outre mesure par rapport à ce que nous devrions nous porter comme responsabilité par rapport au nombre de morts et de catastrophes que nous connaissons à l'Est. C'est la responsabilité de l'État congolais. Vous savez, non seulement il y a une question d'argent, il y a une question de moyens financiers par rapport à l'État congolais, mais il y a également une question de vie humaine. Chaque jour qui passe, il y a des gens qui meurent. De toute façon, il y a des femmes que l'on viole. Et ça devrait être l'inquiétude majeure du gouvernement congolais, même au-delà du gouvernement américain. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que du point de vue matriciel, il est bon que l'État congolais se dote d'une réglementation qui puisse être en mesure de réglementer le commerce national et le commerce international.
Béry Mawazo, prenons cette réaction qui nous vient de Kananga, au Kassai occidental, pour vous.
Civil de Kananga au Kassai occidental, quelles sont les mesures prises par ces ONG nationales basées au Nord Kivu qui soutiennent la mise en application immédiate de la loi Obama pour soulager la pauvreté et la misère de cette population? S'il y a, et bien donc, l'inquiétude de la société civile, du gouvernement provincial ainsi que des opérateurs miniers qui vivent au quotidien la misère et la pauvreté congolaise de l'Est de la RDC est fondée. Leur moratoire de 6 à 12 mois demandé au gouvernement américain afin que la RDC se conforme aux mesures de contrôle qu'exige cette loi est fondamentale.
Réaction d'Eddy Mawazo.
Ah, merci à l'éditeur pour sa liberté, mais je vais lui dire, il m'a posé une question, savoir qu'est-ce que nous prenons comme mesure. Nous, en tant qu'opérateurs privés, en tant que société civile, nous aimerions toujours rappeler à l'autorité établie le devoir qui pèse sur ses épaules de protéger les citoyens et leurs biens, leur dignité, leur vie et tout ce qui sont comme précieux. Et il aimerait savoir si nous avons pensé au bien-être. Nous l'avons bien dit tantôt, le bien-être ne passe pas par l'observation ou l'autorisation que les minéraux continuent à sortir, mais on aimerait savoir est-ce que la filière est assainie. Si on doit nourrir 3 personnes et tuer 2000, je pense que la proportion est assez inquiétante. Vous connaissez ce qui se passe. Le gouverneur qui me suit connaît assez mieux qu'est-ce qui se passe dans la zone. Alors, il a posé la question de savoir Elle a dit, bon, j'ai dit que la chaîne orifère est contrôlée à 95%. Moi, je peux donner un petit exemple. Il y a une année où nous avons analysé les statistiques de la division des mines. On nous a dit qu'il n'y avait que 525 grammes qui avaient été exportés pendant toute l'année. Et le panel d'experts des Nations Unies est passé, il a évalué à des millions de dollars qui ont échappé au contrôle du gouvernement congolais. Et ces millions là-bas ont contribué à tuer les Congolais. C'est simple.
Voilà, il y a Jean de Wernicka Léonore qui dit les gens qui souhaitent l'application immédiate de la loi Obama ne maîtrisent pas la situation réelle de l'exploitation minière à Walikale. Ce ne sont pas les groupes armés qui pâtissent de l'embargo, mais plutôt la population qui a toujours vécu de l'exploitation minière bien avant le phénomène des groupes armés. Et il faut souligner que ces groupes armés vont toujours vivre de cette exploitation qui ne peut être frappée par l'embargo. Deli Mawazo, vous avez suivi tout à l'heure, à Kipenge, reposait pratiquement la question de l'économie informelle.
Oui, effectivement, toute la difficulté, si vous allez à Walikale, le gouvernement ne va pas me contredire à ce sujet, c'est le territoire le plus riche qui a le sous-sol le plus riche, mais c'est le territoire qui affiche aussi la figure du parent pauvre. Si vous allez à Walikale, vous allez être scandalisé par ce que vous allez voir à la défense d'avion, parce qu'il n'y a même pas de... Il y a une route qu'on utilise comme aérodrome, et ainsi de suite. Il y a tout un tas de choses assez étonnantes. Et vous allez constater que ceux qui ont pensé développer Walikale par l'exploitation artisanale ont bien au contraire englouti tout un peuple. Vous allez voir que dans un rapport récent que le Credo a publié sur les formes modernes d'esclavage, les coopératives qui prétendent protéger les intérêts des producteurs, des creuseurs artisanaux, les maintiennent dans les formes modernes d'esclavage. Il y a les travaux forcés, il y a l'esclavage par la dette. Je ne vous citerai pas toutes les formes d'esclavage qu'on a vues. Et celui qui veut parler du développement, du bien-être par les mines, ne sait pas qu'aujourd'hui, la synthèse qu'on peut donner de l'exploitation minière est que, en amont, l'exploitation minière, c'est une malédiction. C'est simple comme ça.
Voilà, Monsieur le Gouverneur Julien Paloukou, avant de réagir, prenons cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga pour vous.
Yves Louboumi, j'habite Lubumbashi dans la province du Katanga. Il est curieux que la société civile s'oppose à une loi qui vise à freiner l'alimentation de l'insécurité dans l'est de notre pays. Autant organiser les choses que pérenniser une situation qui, en réalité, ne profite pas aux populations locales pour lesquelles tente de s'exprimer cette société civile. C'est peut-être la peur du changement.
Monsieur le gouverneur, votre réaction, vous également, vous êtes contre l'application de cette loi immédiate?
Non, moi je pense que vous m'avez très très mal compris. Il n'y a personne qui est contre cette loi. Et je crois que nous devons recadrer le débat. Il ne faut pas que les gens arrivent à comprendre à travers ce débat que c'est la loi américaine qui pousse le gouvernement congolais à mettre de l'ordre dans sa maison. Il est vrai qu'avant que cette loi ne sorte, le gouvernement congolais a fait énormément de travail. On a traqué les FDLR, on a libéré le site de Bissi, qui est le site le plus connu pour l'étain. On a libéré le site de Omate, qui est connu pour l'or. Je crois que cette loi, c'est une sorte de compassion que les Américains ont envers nous. Mais ce n'est pas ça la condition qui va nous permettre de remettre de l'ordre dans notre boîte. Moi, je pense que nous avons suffisamment évoluer et que cette loi américaine vient en quelque sorte s'appliquer aux entreprises et non pas à la République démocratique du Congo. C'est une loi qui ne concerne que les entreprises étrangères qui achètent les minerais à l'Est. Et la loi dit ceci, il faudrait que les minerais qui seront désormais achetés à l'Est soient certifiés que ces minerais viennent des sources qui sont potentiellement contrôlées par le gouvernement congolais. C'est ça la loi. Donc nous pensons que l'opinion devra savoir que ce n'est pas la loi américaine qui pousse le gouvernement congolais à mettre de l'ordre à mettre la RDC. L'ordre est en train d'être élaboré et évidemment cette loi vient nous aider. On ne s'y oppose pas. Lorsque la loi sera d'application, d'abord elle ne doit pas être rétroactive avant qu'elle le dise expressément, c'est-à-dire le 1er janvier 2012, lorsque la loi entrera en application, ce qui aura été fait avant 2012, eh bien, ne sera pas concerné par la loi. C'est cela ce qu'elle dit. Donc je considère que tous les auditeurs et toute l'opinion devra comprendre que
ce n'est pas par la loi américaine que nous sommes en train de vouloir mettre de l'ordre. Sans la loi américaine, avec la loi américaine, nous avons l'obligation, en tant qu'État congolais, en tant que gouvernement, de devoir assurer qu'effectivement, nos minéraux servent à financer le développement de notre terroir. C'est cela la position du gouvernement. Donc, on ne s'oppose pas à une loi américaine qui est en train de faire une compassion au peuple congolais qui en a longtemps souffert.
Monsieur le gouverneur, il y a B. Angui, c'est la réaction que j'ai lue en début d'émission, je la reprends, et qui dit le danger de la loi Obama, c'est que les minéraux seront exploités frauduleusement en faveur des pays voisins, et cela est plus dangereux que la façon dont ils sont exploités aujourd'hui. Cette loi devrait plutôt concerner les pays de l'Afrique centrale.
Oui, la loi dans son ensemble concerne tous les pays, y compris les pays voisins, c'est-à-dire elle ne concerne pas seulement la République démocratique du Congo, si vous la lisez, c'est y compris une dizaine de pays. Et je vous informe, pas vous informer, vous êtes d'accord avec moi que déjà le 15 décembre 2010, il y a eu une conférence à Lusaka, je pense, c'est la conférence internationale sur le pays de Grand Lac qui s'est tenue et qui avait adopté six outils. C'est-à-dire tous les pays de la CIRGL ont adopté six outils par lesquels, effectivement, ils ont compris qu'il faudrait la certification de tous les minéraux pour que chaque minéraux qui transite par un pays ait une origine bien connue. Si le minéraux vient de la RDC et qu'il passe par l'Ouganda, par le Rwanda, par un des 11 pays de la CIRGL, et bien que ce minéraux soit reconnu, qu'il vient de la RDC. Déjà, on y a pensé. Donc, je considère que, comme l'a dit M. Kitenge, je pense son nom, que ce débat ici, en soi, ne nous amène pas à changer les règles du jeu. Parce que nous sommes déjà engagés, nous, dans les changements, à travers ce qui est fait à l'intérieur du territoire national. Nous saluons les gens qui veulent que nos minéraux puissent contribuer au développement de nos entités, mais nous disons effectivement que nous devons nous organiser et ils nous font un temps. Parce que même eux, qui sont indépendants depuis plus de 300 ans, ils ne se sont pas développés en un clin d'œil, il y a 5 ans, en 10 ans.
Merci.
Il y a à peine quelques mois que nous sortons de la guerre. On ne peut pas nous amener à dire qu'en sortant de la guerre, en même temps, nous devons ressembler aux États-Unis, nous devons ressembler à la France, nous devons ressembler à la Grande-Bretagne. C'est ça les idées fortes que nous nous développons, parce qu'on risque de nous clouer par la logique évolutive que nous sommes en train de développer.
Merci.
Au sein du gouvernement congolais pour remettre de l'ordre dans la boîte.
Voilà, Al Kitenge n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Il va réagir après à cette réaction qui nous vient de la province orientale.
Claude Kisangani, en province orientale. Une divergence des vues relatives à la loi américaine pour son application effective, à mon sens, n'est pas opportune car le Kivu, qui en fait est l'un des grands réservoirs de matières premières dans ce pays, constitue l'objet des conflits et des guerres depuis plusieurs années. Et si la démilitarisation des montagnes minières et autres n'a pas donné des résultats probants, la loi Obama peut être le salut ou le salvaire du peuple kivuien.
Réaction à Kitenge. Non, il ne faut pas aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Obama ne viendra jamais gérer le Congo, il n'en a pas les capacités, il est très loin d'ici, il n'a même pas le pouvoir, ce n'est même pas son devoir. Il faut laisser Obama tranquille. Sa loi, la loi des institutions américaines, vise à gérer la réputation des États-Unis, la réputation des entreprises américaines. Parce que c'est une honte pour un pays comme les États-Unis de se rendre compte que ces opérateurs économiques sont des opérateurs voyous. C'est la seule chose qui intéresse Obama, c'est la seule chose qui intéresse les institutions américaines. Le reste, la sécurisation de notre territoire, le développement de nos territoires, c'est une question congolo-congolaise. Entre-temps, je voudrais dire que le chef de l'État a eu tort de suspendre sa mesure de l'arrêt d'exploitation artisanale. Parce que mon jeune frère qui est juste à côté de moi ici, il dit exactement ce que j'ai dit tout à l'heure en ces mots. L'exploitation artisanale ne profite pas à la grande masse d'artisans ou de créateurs artisanaux qui sont dans les mines et qui crèvent.
Tu as même parlé de la malédiction.
C'est le cas de le dire. On l'a vu dans les deux Kasaï. Le diamant artisanal ne provoque que la honte. Aujourd'hui, les deux Kasaï sont pleins de mendiants. Le nombre de diplômés d'État a baissé. Le niveau de l'enseignement a baissé. Mais on observe exactement la même chose au Katanga. Il y a près de 200 000 trésors artisanaux.
Il faut regarder le film qui parle de Katanga Business. Il faut regarder les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Mais en parallèle, il y a des gens qui font des millions et des millions de dollars. Eux, ce sont des commerçants.
Mais c'est cette même population qui s'est encore plainte quand on a suspendu l'exploitation.
Oui, mais bien entendu, parce que probablement, il n'y a pas d'alternative. Il y a deux niveaux d'alternative. La première, c'est que le chef de l'État aurait dû bondir en organisant des centrales d'achat. Ce que les Américains sont en train de proposer avec ce qu'ils appellent les centres de négoce. Nous devrions être en mesure de multiplier les centrales d'achat et les faire fonctionner par des opérateurs agréés qui respectent une ligne de conduite congolaise avec des mécanismes congolais de surveillance. C'est une très bonne chose. La deuxième des choses, et elle est fondamentale, il faut vraiment passer à l'exploitation professionnelle et industrielle des minerais que nous avons. Sans quoi nous n'aurons pas de retombées directes dans notre économie parce qu'une grande partie de l'exploitation artisanale se fait dans l'informel et donc échappe à l'État. On ne doit pas continuer à aller par petits pas. La situation est dangereuse. Il y a une grande partie de notre population qui est dans une misère noire. Vous ne savez pas ce que c'est 60 kilos ou 100 kilos de minerais sur le dos d'une personne au jour le jour. Le jour où cette personne tombe simplement malade, elle meurt.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Alkitengue?
À mon avis, il faut agir sur deux paliers. Le premier palier, c'est organiser la petite exploitation artisanale en essayant d'amener un minimum de technologie. Et ça, c'est des choses qui sont prévues dans la programmation de ce qu'on appelle le système, ça veut dire Smart Scale Mining. Et c'est extrêmement important parce qu'il était prévu que les découvertures soient faites mécaniquement et que les personnes humaines soient utilisées simplement à des tâches minimum. Mais encore une fois, cette période doit être très courte. Un an, deux ans au maximum. On doit être en mesure de passer à l'octroi de ces carrés miniers à des exploitants industriels et pour ça, il faut aller les chercher activement.
Deuxième palier.
C'est le deuxième palier, celui de l'industrie et de
l'industrialisation.
Donc, il faut passer à la collecte ou à la recherche d'intervenants miniers industriels qui doivent entrer en opération là-bas pour être en mesure d'utiliser les ressources humaines de la manière la plus rationnelle et renvoyer dans la communauté la richesse réelle, l'organisation, mais surtout le développement humain.
Deli Mawazo, quelle est votre réaction par rapport aux deux solutions proposées par Alkitengue?
Ah oui, je vais réagir à ces propositions et avant cela, j'aimerais quand même dire deux petits mots par rapport à l'intervention du gouverneur. Il a dit, par exemple, qu'il y a des réformes qui sont en train de s'opérer dans la gestion du domaine minier. Je dis oui, oui et non. Non, parce que, par exemple, pour les gros sites miniers dont il a fait allusion, les sites miniers de Bissi à territoire de Walikale, les militaires congolais, les ex-NDP, pendant la suspension, ont utilisé les explosifs du gouvernement pour chercher par la force les minerais. Et je ne sais pas si c'est ça qu'on doit appeler réforme ou réorganisation du système. Sur le plan de la gestion de la filière orifère, j'aimerais que, si cela était permis, que le gouverneur dise à quel taux de réussite on est arrivé pour la gestion des aires riches à nord, contrôlées par les FDLR et que le gouvernement congolais a pu reconquérir et quelles peuvent être les retombées à terme d'amélioration de la productivité officielle, je dis officielle, de nord au nord qui vous passe, que les statistiques sont lorsque vous les voyez. Et les dizaines de kilos d'or qui sont saisis et qui sont exploités frauduleusement, il y a vraiment un contraste assez dangereux. Pour revenir à
proposition
de Alkitengue, je l'ai dit avant, toutes les fois que l'on ne veut pas reconnaître que le minerai constitue une bombe en amont, ce minerai là-bas devienne une malédiction. Parce qu'en fait, c'est la petite vie qu'on organise, on mange, on s'endort, le lendemain, on se réveille très malade, très pauvre, ainsi de suite. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a aucune structure. Il n'y a qu'avec l'évolution vers l'industrialisation qu'on peut marcher. Et je soutiens son premier palier, le deuxième. Mais le troisième palier que j'aimerais proposer, et c'est le travail que les Credo aimerait entreprendre dans les zones minières, c'est la promotion des activités alternatives à l'exploitation minière. Dans tous les pays, j'ai toujours suivi le gouverneur Moïse dire « Veuillez promouvoir aussi l'agriculture. » Si vous allez à Walikale,
Un petit poulet qui coûte 5 ou 10 dollars à Goma, lorsqu'il est déjà rôti, le quart du même poulet va vous coûter peut-être 4 ou 5 fois plus.
Donc, alors, il faut encourager l'élevage, l'agriculture, à côté du secteur.
Oui, oui. J'appuie tout ce qu'il a dit et j'ose ajouter ce petit élément.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous avez évoqué tout à l'heure les efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement congolais pour renforcer le processus de traçabilité. Alors, quelle est votre réaction par rapport aux deux piliers proposés par Alti Tengue et le troisième ajouté par Delima Oazo?
Intervenants, si nous devons être sincères avec nous-mêmes, nous devons en fait améliorer les méthodes de travail. Ça, c'est tout à fait normal. On ne doit pas continuer à assister à une population extrêmement pauvre face à un territoire extrêmement riche. Donc, nous sommes tout à fait d'accord qu'on doit professionnaliser l'exploitation, qu'on doit industrialiser l'exploitation, qu'on doit passer de la phase artisanale vers une phase beaucoup plus technique. Mais ici, si je dois ôter à mes propos peut-être un caractère diplomatique, j'aurais pu dire, avec le sujet comme tout le monde, que toutes ces entreprises américaines, si celles ou je ne sais pas, japonaises ou malaisiennes, eh bien, pendant 10 à 15 ans, ces entreprises, ces pays ont continuellement acheté des minerais de l'Est, tout en sachant qu'il y avait la guerre ici. Jamais ils n'avaient arrêté l'achat des minerais parce qu'il y avait la guerre. Maintenant que nous arrivons à terme, que nous arrivons à la fin de la guerre, c'est à ce moment que cette entreprise américaine ou française ou japonaise arrête pour dire que non, nous ne voulons plus financer la guerre, alors qu'ils ont acheté au moment fort de la guerre les minerais de la RDC. Donc moi je pense que nous pourrions réfléchir à haute voix en disant peut-être qu'on a suffisamment accumulé des réserves et qu'on sera honte que finalement, on a participé au financement d'une activité meurtrière à l'est de la RDC. C'est une réflexion que je pourrais évoquer en tant que scientifique aussi, mais à ma partie de gouverneur, je sais qu'il y a des propos qu'on ne peut pas tout de suite évoquer, mais comme analyste, je me rends compte que pendant les 20 ans de guerre, on n'a jamais dit qu'il y ait une loi qui interdisait à ce qu'on achète les minerais de sang, alors que on savait effectivement que telle partie était sous contrôle rebelle, telle autre était sous contrôle rebelle, on n'avait pas interdit d'acheter les minerais, alors qu'on savait qu'on participait au financement de la guerre. Donc je pense que nous devons réfléchir à haute voix avec les Américains, avec tout le monde, pour nous dire qu'on n'est pas en ce moment où la RDC doit sembler être sanctionnée pour avoir participé au financement de la guerre, parce que ce n'est pas la RDC qui a acheté ces minerais. Ces minerais étaient achetés au grand jour par les entreprises fiscales américaines, françaises, qui aujourd'hui se rendent compte qu'effectivement, ils ont rendu mauvais service à la RDC.
Merci. Alki Tengue, il y a Romain Kibang de Lumbashi qui va pratiquement dans le même sens que le gouverneur Paluku. Après s'être servi durant des années, c'est maintenant qu'on veut nous distraire pendant qu'ils ont des stocks de nos minerais chez eux. En guise de conclusion également.
Laissez les Américains tranquilles. Les questions sont congolo-congolaises. Nous devons être sérieux. Aujourd'hui, qui est en train de pleurer? Pourquoi nous pleurons? Le grand drame de notre pays, c'est qu'il y a une accointance bizarre entre des opérateurs politiques, des opérateurs militaires et des officiels avec les pratiques, la mafia et la fraude. On doit arrêter ça. On doit l'arrêter le plus vite possible. On ne peut pas gérer un pays et vouloir son malheur à la fois. Donc, il est important que nous soyons disciplinés. Nous allons tailler dans notre amour propre pour aller au-delà des besoins de nos populations, pour rester publics. Et ça, c'est de la pudeur élémentaire et elle est extrêmement importante. Je crois simplement que nous devons fournir un effort majeur pour ne pas pleurer au nom de la petite quantité de personnes, le petit nombre de personnes, les commerçants, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, aujourd'hui, qui ont du stock, ils doivent vendre. Ils vendront ces stocks, mais il faudrait qu'ils les vendent de manière claire et nette. C'est pour ça que je dis, il est important de bancariser les lieux. Comme ça, on peut tracer les fonds. Parce que si on sait qui a l'argent, qu'est-ce qu'il en a fait, où est-ce qu'il l'a dépensé, ce sera facile. Et nous aurons quitté l'informel, nous serons dans l'économie formelle et organisée. Donc, l'industrialisation, mais avant ça, la bancarisation.
Alors, qu'est-ce que vous répondez brièvement vraiment à Rémi Badia, loi de Ndoumandortivou, qui se demande pourquoi cette loi pendant cette période électorale?
C'est la loi américaine, ça ne nous concerne même pas, je n'ai pas de réponse à y donner. Les Américains y répondront. Mais je crois que nous, les Congolais, nous devons continuer en même temps à gérer dans la responsabilité de notre propre pays.
Delima Oazo, conclusion, juste un mot.
Oui, un mot, et que nous avons besoin d'un Congo qui permet de se blesser, un Congo qui respecte ses citoyens, qui le protège, un Congo où l'esprit de corps et de discipline règne dans l'armée pour protéger les le civil face à l'exploitation.
Merci. Monsieur le gouverneur Julien Paloukou, juste un mot pour conclure.
Tout ce que je dois dire, c'est que le gouvernement congolais déploie d'énormes efforts pour devoir veiller sur la traçabilité de nos minéraux et nous voudrions que nos minéraux servent au développement de notre République.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-la sur radiocapi.net ou écoutez-la en rediffusion à 14h15, heure de Kinshasa. Au revoir. Thank you.